Bon, on va commencer notre 55e leçon, notre série sur l'histoire de l'Église. On va voir ce soir ce que les chrétiens doivent savoir sur les réveils dans la partie 3. Alors, dans nos dernières leçons, on avait vu que les historiens chrétiens qui avaient étudié les réveils les classaient ordinairement avec des dates du 1er au 6e. On n'est pas obligé de tout nommer ça. Les gens qui nous écouteront peuvent télécharger les documents et avoir toutes les... Alors, on a déjà étudié les deux premiers grands réveils et on a fait un arrêt pour présenter certains la série qu'on est en train de faire, ce qu'on doit savoir sur les réveils. Alors, si on veut les apprécier à leur juste valeur, on se doit, et voir s'ils ont encore une pertinence de nos jours, on se doit de connaître certains aspects des différentes facettes des réveils chrétiens. Alors, j'ai fait un tableau. Alors, on a vu dans la partie 1 de ce que les chrétiens doivent savoir sur les réveils. On avait vu le besoin des réveils, les obstacles au réveil et la préparation au réveil. Dans la partie 2, on avait vu les caractéristiques du réveil, le pourquoi et le but du réveil, ce que les anglophones appellent « the purpose of revival ». Et aussi, on a vu les effets du réveil. Aujourd'hui, on est dans la partie 3. Dernière partie, on va voir l'arrivée du réveil, comment ça arrive normalement, la contrefaçon du réveil. On sait que quand Dieu fait quelque chose, Satan fait toujours une contrefaçon, comme pour brouiller les cartes, on pourrait dire. Et la dernière question qu'on va regarder, c'est les réveils sont-ils encore possibles de nos jours? Alors, on va rappeler tout simplement que le réveil, c'est un acte souverain de Dieu qui ne peut être empêché. Qui ne peut être non plus commandé ou promu ou expliqué. C'est un miracle, un acte surnaturel. Alors, on va aujourd'hui étudier les trois points suivants. Comment arrivent les réveils, la contrefaçon du réveil et les réveils sont-ils encore possibles de nos jours? On va commencer par le premier point. Comment arrivent les réveils? Alors, tous les réveils comprennent des stades et des étapes. Alors, on va regarder les stades. Et une bonne façon d'observer les stades du réveil, c'est de regarder le passage d'Exode 33, versets 1 à 11. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, « Je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittiens, les Phérisiens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je ferai, ce que je te ferai. » Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et l'adressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela « tente d'assignation ». Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Alors, on a ici une description de l'arrière-plan historique et de l'état spirituel d'Israël à ce moment-là. C'était un des plus sérieux déclins de leur histoire. Il se manifestait de différentes façons, des plaintes, des murmures, de l'impatience, l'adoration du veau d'or, les vices, la dissolution collective et des comportements indignes. Voyons-nous un équivalent moderne de cet état spirituel? Nous croyons que oui. Qui se manifeste comment? D'abord, au cours des siècles passés, il y a eu vraiment l'attitude critique vis-à-vis des Saintes Écritures. Alors, comment ça se manifeste? L'Église qui s'élève elle-même au-dessus du Saint-Livre avec la philosophie et la haute critique. Alors, on a un exemple, par exemple, dans l'Église catholique qui, elle-même, se place au-dessus des Écritures et toute l'influence de la philosophie et de la haute critique qui ont fait des ravages dans l'Église chrétienne. L'autre manifestation, c'est l'attitude incrédule vis-à-vis de la personne de Jésus-Christ. Alors, ça, c'est particulièrement les 19e, 20e siècles, beaucoup, beaucoup de manifestations de cela. Donc, du doute quant à la déité de Christ, quant à ses miracles, quant à sa naissance virginale, quant à sa résurrection littérale et physique, etc. Les résultats de tout cela, une moralité déclinante, une fausse adoration, de faux dieux, le mal, le vice et les péchés, et la dissolution collective. Les deux guerres mondiales de 1914 et de 1939 peuvent être des jugements divins pour la grande apostasie du 19e siècle. Alors, on voit dans le texte, à un moment donné, il y a un coup de clairon. Le coup de clairon, c'est que ça indique la nécessité de la séparation. C'est l'heure de la décision. Chacun doit choisir son camp. Il y a ceux qui sont du côté du Seigneur et ceux qui ne le sont pas. Quand on retourne dans Exode, chapitre 32, verset 26, Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. » Alors, on voit qu'il y avait quand même 12 tribus, mais il n'y en a qu'une qui s'est rangée du côté de Dieu. Ça donne une petite idée de l'état spirituel du peuple. Alors, maintenant, il y a une autre chose, alors le coup de clairon. Et le coup de clairon, c'est vraiment Moïse qui dit à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Maintenant, on a aussi l'histoire de l'intercesseur et du médiateur. Exode 32, versets 31-32. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Alors ici, dans l'Exode 33, les versets 1 à 3, on a la promesse, mais sans la présence de Dieu. C'est comme si Dieu dit « Ouais, mais je ne serai pas présent avec vous. » Alors l'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, « Je le donnerai à ta postérité. » J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérisiens, les Héviens, les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Alors, on peut regarder maintenant les étapes du réveil à l'intérieur de ce texte-là, on en voit plusieurs étapes, une cinq. La première étape, c'est une prise de conscience. Prise de conscience du sérieux et de la gravité de la situation. Le retrait de la présence de Dieu du milieu du peuple, c'est, on ne peut pas avoir une plus grande chose grave que ça. Alors, elle se manifestait par des signes visibles. Quand l'Éternel était présent avec eux, la colonne de nuée les suivait, les précédait de jour, et la colonne de feu la nuit. Alors ça, c'était le signe visible de la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël. À partir du moment où ces choses-là ne sont plus chez le peuple, ça manifestait que l'Éternel était vraiment plus avec eux, et ils prennent conscience que Dieu est avec eux. C'est un peu la même chose que lors d'un réveil, c'est que le peuple de Dieu se rend compte soudainement de son état spirituel, de ses difficultés, de sa misère, et que sans une intervention divine, il ne s'en sortira pas. La deuxième étape, bien entendu, c'est la repentance, la pleine réalisation de leur péché aux yeux de Dieu. Exode 33, versets 3 et 4, où il leur dit « Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple aux cours roides. » Lorsque le peuple eut entendu ces paroles sinistres, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. C'est vraiment l'idée qu'ils commencent à se rendre compte de la gravité de leur péché et ils veulent s'humilier. C'est vraiment la repentance, ils se rendent compte. On a à peu près la même idée dans 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 8 à 11. « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, verset 10, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification? Quelle indignation? Quelle crainte? Quel désir ardent? Quel zèle? Quelle punition? Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. » Alors, on se souvient que c'était qu'il y avait du péché grave dans l'Assemblée et qu'à partir du moment qu'ils ont reçu la nouvelle de Paul de s'occuper de leur cas, ils se sont occupés. Et ici, dans le verset 11, on voit qu'ils ont agi face à l'accusation de péché. Ils n'ont pas juste dit « Ben là, maintenant de tes affaires. » Ils ont agi en enlevant la personne. Ils disent « Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent. » Quelle zèle, quelle punition. On sait qu'ils ont enlevé cette personne qui était accusée de coucher avec sa belle-mère, je pense. La troisième étape, alors on a la première étape, prise de conscience du sérieux, de la gravité de la situation. Deuxième étape, la repentance. Troisième étape, la prière et l'intercession. Après la réalisation de leur péché et l'engagement dans la repentance, il y a la tente d'assignation, un lieu de rencontre avec Dieu. Rappelons que les non-conformistes, on sait que c'est les non-conformistes, c'était sûr en Angleterre, appelaient leur lieu de rencontre les « meeting house ». Donc, un « meeting house »,« meeting », ça veut dire un lieu de rencontre. Je me souviens qu'il y a encore des gens qui appellent ça « meeting ». Puis je me souviens quand j'étais jeune, il y avait des petites églises protestantes à Lac-Mégantic, on appelait ça les « mitaines ». Parce que c'était une déformation du mot anglais « meeting ». Parce que les protestants, c'était pas des messes, c'était des « meetings ». Alors, le « meeting house », c'était le lieu où tu allais rencontrer Dieu. Et nous, on appelait ça des « mitaines ». En tout cas, c'est spécial. On voit que la prière et l'intercession, dans la troisième étape, dans ce grand passage-là qu'on a regardé tantôt dans Exode, c'est vraiment sous l'initiative d'un homme. Donc, Moïse. Il y a plusieurs réveils. Quand quelqu'un étudie les réveils en détail, on n'aura pas dans les détails, on va seulement nommer quelques cas. Plusieurs réveils ont commencé par un homme qui avait un fardeau, celui de prier. Alors, il y a eu celui de Fulton Street à New York. On va le voir plus tard dans les autres qu'on va étudier. Celui de James McWilkin en Irlande du Nord et celui de Humphrey Jones au pays de Galles. Alors, c'était sous l'initiative d'un homme et c'était un endroit particulier aussi, en dehors du camp. Nous avons lu que Moïse avait pris l'initiative d'établir un lieu de rencontre pour la prière et l'intercession et que ce lieu était ouvert à ceux qui partageaient son fardeau. Le tout se faisait sans fanfare, ni trompette, ni organisation. Le lieu de la rencontre était en dehors du camp. Ce n'était pas un mouvement officiel d'Israël ou de l'Église. Nous pouvons illustrer aussi ce principe avec les mouvements du protestantisme, du puritanisme, du méthodisme et des frères chrétiens, les Plymouth Brethren. Quand on regarde l'ensemble de ces mouvements-là, le protestantisme est sorti du catholicisme. C'était comme l'équivalent de sortir pour la tente d'assignation. Les puritains, la même chose, sortaient du milieu des anglicans pour avoir une pureté. Et le méthodiste était la même chose. C'est encore des gens qui voulaient sortir de l'Église anglicane. Et tu as les frères chrétiens qui étaient encore des gens de l'Église anglicane qui en sont sortis. Alors, en dehors du camp, avec un appel à la consécration et à la sainteté. Exode 33, versets 7 à 11. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. Alors remarquez une chose, la colonne de nuée n'était plus avec le peuple, mais la colonne de nuée était avec la tente d'assignation. Alors on voit le côté, le transfert de la bénédiction de Dieu qui s'en va vers la tente d'assignation. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de la tente, de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Sans doute que Josué s'attendait à des conversations avec Dieu encore plus, puis il ne sortait même pas de la tente. Moïse sortait, il allait vers le peuple, mais lui, il restait dans la tente. C'est comme une volonté de dire, la prière pour lui était très intéressante, il s'attendait à recevoir des bénédictions de l'Éternel. Alors, ce texte nous montre que Moïse faisait appel à la sainteté, qu'il y avait le retour de la colonne de nuée, et qu'il y avait des signes d'encouragement. Dieu parlait avec Moïse. Donc, une intimation que Dieu avait entendu les prières et qu'il allait répondre. Moïse retournait au camp pour encourager le peuple. Moïse s'attendait à plus. Le comportement de Josué démontre que Josué également était dans l'expectative d'une grâce divine. Il ne sortait pas du milieu de la tente. Alors on peut dire comme sommaire, vraiment la sainteté, l'intercession urgente, s'attendre à la présence de Dieu et s'attendre à plus et à plus. On va voir que ça n'arrête pas là. La quatrième étape, c'est vraiment la volonté de connaître Dieu de façon plus intime. L'Exode 33, versets 12 à 17, Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas point sortir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. » Et je te connais. Alors, la quatrième étape, c'est vraiment la volonté de connaître Dieu avec beaucoup plus d'intimité. Et Dieu répond. Dieu lui donne ce qu'il demande. Exode 33, c'est intéressant dans la version Sterval, parce que ça dit, « Maintenant, donc, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, que je te connaisse. » Vraiment la volonté d'avoir une plus grande connaissance intime avec le Seigneur, afin que je trouve grâce à tes yeux. Considère aussi que cette nation est ton peuple. Alors, à l'intérieur de la quatrième étape, il y a vraiment la volonté de Moïse et de développer l'intimité avec le Seigneur et de mieux le connaître. Alors, connaître plus profondément. Sa prière exprime sa volonté de mieux connaître la volonté de Dieu. Il dit « Fais-moi connaître tes voies ». Alors, il veut de l'assurance personnelle en connaissant le plan de Dieu. Deuxième chose, remarque qu'on peut voir par rapport à la prière, Moïse veut plus de puissance, parce que dans les versets 14 et 15, il voit l'ampleur du problème et la force de l'ennemi. Tous ces peuples-là, il ne voulait pas les affronter si Dieu n'était pas avec lui. Alors, c'est la même chose, essayer de vouloir faire de l'évangélisation. Si Dieu n'est pas avec nous, on n'a pas de succès. Si Dieu est avec nous, on a beaucoup de succès. C'est l'histoire des réveils en général. Quand Dieu était avec son peuple, il y a eu des réveils énormes, il y a eu des conversions en très grand nombre, et les mêmes sermons auraient pu être faits devant tout ce monde-là sans que l'Esprit de Dieu travaille sur les âmes, il ne se serait rien passé du tout, presque. Alors, quant à nous, nous pouvons voir le déclin du membership, le déclin de l'assistance au culte, l'accroissement de la mondanité, la réalisation de notre faiblesse, de notre incapacité et de notre impotence. Verset 16, la troisième chose qui est indiquée dans la prière, c'est que Moïse veut l'authentification de sa mission, dans le verset 16. Il veut des signes divins, manifestes, uniques et extraordinaires pour attirer l'attention du monde sur notre unicité. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il veut que Dieu soit présent avec lui pour que les peuples voient que le peuple de Dieu est unique, que le peuple de Dieu est protégé et que Dieu est présent au milieu d'eux. Moïse cherche la gloire de Dieu, la gloire de son nom, de son honneur, l'honneur d'Israël aussi comme peuple de Dieu et la reconnaissance de tous ces faits-là par les nations. Quand on lit le texte, on voit que c'est ça qu'il voulait. Il voulait que les nations reconnaissent que l'Éternel est puissant. Cinquième étape, et qui n'est pas la moindre, la volonté de voir la gloire de Dieu. Exode 33, versets 18 à 23. Et là, on sait qu'après qu'il a été exaucé, là, il a comme monté d'un cran dans sa volonté de s'approcher de Dieu. Il a dit... Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Il ne demandait pas une petite affaire. Là. Je ne sais pas s'il se rendait même compte de ce qu'il demandait. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir. » et vivre. L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. » Alors, on n'est pas sans faire une référence à ce que le rocher, c'est Christ, parce que les Écritures n'arrêtent pas de parler de Christ comme étant le rocher. Et dans le verset 22, il dit, « Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher. » In the cleft of the rock. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le fameux chant « In the cleft of the rock » de Augustus Toplady. C'est justement, tout le chant est basé qu'on est dans le creux du rocher. Parce que c'est ça qu'il dit ici. « Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. » On est en Christ, on est dans le rocher. Ce qui fait en sorte qu'on peut voir une partie de la gloire de Christ, mais juste de dos. Autrement dit, on ne peut pas voir sa face parce que sa face, c'est l'expression l'expression simultanée de tous ses attributs en même temps. L'homme ne peut pas voir ça parce que s'il voit ça, il meurt direct. Alors Dieu accorde quand même une certaine miséricorde. Il place l'homme dans le creux du rocher. On n'est pas sans voir l'allusion à la personne même de Christ. Et il dit, « Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. » Et dans le verset 23, il dit, « Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Alors, c'est ici le principe du plus et plus encore. Moïse demande, Dieu accorde, mais en demande encore plus. Alors, c'est le principe. Alors, l'enfant de Dieu ne se lassera jamais de découvrir l'infinie gloire de Dieu manifestée dans chacun de ses attributs. Cette gloire-là est tellement grande que l'éternité ne suffira pas pour que nous en découvrions toute la grandeur et toute la richesse. C'est le plus haut sommet de la foi. Psaume 42, versets 2 et 3. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Alors, bien entendu, la face de Dieu, on va pouvoir la voir uniquement au ciel. Et encore là, l'expression de ses attributs, on ne découvrira jamais pleinement et totalement et absolument, parce que l'éternité ne suffira pas pour tout le découvrir. Ça donne une idée comment Dieu est grand. Psaume 17, verset 15. « Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasirai de ton image. » Alors, on a la réponse de Dieu, les versets 19 à 23. La réponse est affirmative. Quand Moïse lui demande de voir sa gloire, la réponse est affirmative. Cependant, elle comporte des limitations, car aucun homme ne peut voir pleinement la face de Dieu durant sa vie terrestre. On le voit dans le verset 20, l'Éternel dit, « Tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Il a quand même permis qu'après l'avoir mis dans le creux du rocher, qu'il voit de dos. Alors, c'est vraiment une expression que Dieu a permis qu'en Christ, tu découvres certaines facettes de lui, mais ça va toujours être une vision incomplète. De dos et de la face, pas la même chose. Quand on parle à quelqu'un, on aime bien y parler en face, non pas dans le dos. Alors, ici, c'est vraiment l'image qui est utilisée pour parler qu'on va voir la vision de Dieu va être une vision incomplète, partielle, et qu'elle ne va se réaliser que dans la personne de Christ, dans le creux du rocher. Alors, cependant, le Seigneur me permet une certaine révélation de lui-même, mais dans le creux du rocher, bien sûr, qui représente la personne de Jésus-Christ. C'est une vision par derrière. C'est une combinaison de révélations partielles et de cachettes pour notre propre protection. Si Dieu n'avait pas caché Moïse dans le creux du rocher, qui s'était montré véritablement à lui dans toute sa gloire, Moïse serait mort instantanément. Alors, le deuxième point qu'on va regarder, c'est vraiment la contrefaçon du réveil. Ceux qui ont étudié le phénomène ont trouvé un acronyme pour parler des différentes façons dont le malin va faire une contrefaçon du véritable réveil. Et ils ont utilisé le mot « flèche ». Je trouve ça très intéressant. Flesh, ça veut dire, c'est le mot chair en anglais. Ça résume bien certaines caractéristiques des contrefaçons de réveil dirigées par Satan. Alors, le F, c'est pour fabrication, fantaisie, fraude. Alors, quand c'est des. Actuellement dans le monde, il y a beaucoup, dans certains milieux, pentecôtistes en particulier, on parle beaucoup de réveil, mais est-ce que c'est des véritables réveils? C'est là la grande question. Souvent, c'est des fabrications humaines. Les hommes pensent qu'ils sont capables de commander à Dieu d'envoyer un réveil, alors que c'est complètement fou, parce que c'est un acte souverain de Dieu. Dieu permet, c'est lui qui le permet, mais des fois, il se sert des prières des hommes pour l'envoyer. Alors, à l'intérieur de ça, souvent, il y a des fraudes et souvent, il y a des fantaisies. On pourrait développer beaucoup à l'intérieur de chacune de ces dates-là, là, mais je pense que ça donne quand même une bonne idée en utilisant l'acronyme pour voir comment le malin fait les contrefaçons du réveil. Le L, c'est pour « lying signs and wonders », qui peut se traduire par « les prodiges et miracles mensongers ». Je ne sais pas si vous avez entendu parler, dans certains milieux américains, dans des églises, la poussière d'or qui tombe sur des bibles, toutes sortes de phénomènes qu'on dit miraculeux. Alors, l'Éternel nous avertit qu'à les temps de la fin, Satan va utiliser des signes, des miracles mensongers pour que ceux qui ne lui appartiennent pas suivent. Alors, lying, signs and wonders, c'est quelque chose qui est prédit dans les Écritures. Le E, c'est pour le end time restaurationism ou le restaurationnisme. Le but du mouvement des contrefaçons du réveil, c'est vraiment d'abattre tous les murs qui séparent les chrétiens. Alors, les moyens qui sont utilisés, la glossolalie, donc le parler en langue, et les guérisons, et aussi l'unité à tout prix. On est rendu qu'on utilise à peu près tout ce qui est possible pour rassembler le monde. On ne regarde plus si ce qu'on enseigne est vrai. On veut juste être ensemble et dire, on ne parle plus de doctrine, on veut l'unité. Alors, les moyens proposés, c'est ça, le parler en langue, les guérisons, l'unité à tout prix. Et ce qu'on appelle, surtout dans les milieux pentecôtistes, les super apôtres et les super prophètes. Alors, il y a des gens qui se prétendent des nouveaux apôtres, qui se prétendent des nouveaux prophètes. Et tout cela a pour but de faire l'unité de ces gens-là. Alors, ça, c'était le... c'est à quoi ce statut? Le F? Le E? Après ça, on a le S pour le fameux slain in the spirit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de cela. Moi, j'en ai vu plein. Parce que dans le temps que j'étais à Lenoxville, M. Ewen était un pasteur qui s'occupait beaucoup de surveiller la scène religieuse américaine. Il nous emmenait souvent des films ou des vidéos où il nous montrait des phénomènes qui se produisaient chez les pentecôtistes de façon particulière. Alors, tu voyais comme un pasteur arriver, et là, il touchait quelqu'un, il touchait la tête, puis la personne bondissait quasiment d'un pied. Pouf! Puis elle tombait sur le dos. Il appelle ça en anglais « slain in the spirit ». Alors, ça veut, si tu le traduis en français, c'est « tué dans l'esprit ». C'est comme si l'Esprit de Dieu faisait un travail tellement intense chez une personne ou par imposition des mains qu'il tombe littéralement sans connaissance. Alors ça, c'est très, très, très courant dans les milieux pentecôtistes américains, du moins certains milieux, pas tous peut-être, là. Puis le fameux H, pour finir le flèche, pour hypnotisme. Alors, l'hypnotisme, c'est un mot générique utilisé pour parler de toutes les techniques qu'ils utilisent pour amener les gens à avoir la même opinion. Alors, les phénomènes provoqués par la pression des pairs, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Moi, je connais quelqu'un à Québec qui est allé dans une église pentecôtiste et on s'est mis en rond autour de lui. Et là, on a commencé à y faire une pression telle qu'il voulait qu'il parle en langue. Et la pression du monde autour de nous, ça a toujours une influence. Alors, la pression des pairs est beaucoup utilisée dans ce domaine, dans ce milieu-là. Ce qu'on appelle aussi des états altérés de la conscience. L'exploitation manipulée de l'expectative, ça veut dire que tu manipules comme de quoi qu'un phénomène va arriver. C'est vraiment des techniques de manipulation psychologique, et aussi le pouvoir de la suggestion. Quand tu mets toutes ces choses-là ensemble avec la musique, avec la lumière, ça fait de l'effet ordinairement. Aujourd'hui même, j'ai écouté une vidéo, je ne me souviens pas comment ça se fait, je suis allé écouter ça, je pense que quelqu'un m'a envoyé un email en disant « va voir ça, je suis allé voir ça ». C'est épouvantable. Actuellement, il se produit des phénomènes chez les pentecôtistes, c'est presque incroyable, faut que tu le vois. Tu peux aller chez c'est YouTube, tu vas tout voir ça. Les gens dansent. On dirait que c'est comme de la folie furieuse collective. Moi, quand je regarde ça, ça me fait littéralement peur. Alors, quand tu regardes les items de flèches, mais il y a d'autres problèmes qui se rencontrent lors des contrefaçons, des réveils. Alors, on va les regarder. La première, c'est que la parole de Dieu occupe une place secondaire et souvent aussi avec un usage tordu et très sélectif. Ça, personnellement, je l'ai déjà connu dans une petite assemblée où c'était l'insistance était beaucoup sur l'Esprit de Dieu. C'est comme les gens disaient, « Ah, le Saint-Esprit me dit qu'il y a un ensemble qui a péché. Le Saint-Esprit m'a dit. » Et à fin de compte, on passait une heure et demie et on n'avait même pas ouvert la Bible une seule fois. Et ça, c'est très courant dans les milieux pentecôtistes, malheureusement. Et la parole devient qu'elle prend une place secondaire. Et quand elle est utilisée, c'est souvent dans un usage tordu ou très sélectif en ne tenant pas compte des enseignements des Écritures ailleurs. C'est vraiment une caractéristique très profonde de ces milieux-là. La deuxième problème qui sont souvent rencontrés lors des contrefaçons, c'est que Jésus-Christ n'est pas proclamé Seigneur. Il peut être proclamé sauveur, mais pas Seigneur. Seigneur, ça veut dire qu'il est le maître de ta vie. Il a des droits sur toi, il a le droit de t'imposer des choses. La troisième, les requêtes qui sont amenées souvent par les leaders de ces milieux-là de vider ton esprit. Alors que les Écritures ne nous commandent jamais de vider notre esprit, mais plutôt de le remplir. Quand tu regardes dans Philippiens, les Écritures nous commandent plutôt de remplir notre esprit avec des choses bonnes, désirables, agréables, jamais de vider notre esprit. La quatrième, une supposée onction du Saint-Esprit qui est transférable d'un homme à un homme. Ça aussi, je l'ai vu dans le temps que j'étais à Sherbrooke. Un gars qui croyait avoir un don du Saint-Esprit, qui croyait qu'il était capable, par imposition des mains, de le transférer à une autre personne. Et dans ce milieu-là, c'est très courant. Autre chose, la confusion, la manipulation et l'intimidation. Sixième problème qui se rencontre dans ces milieux-là, souvent, on donne des ordres au Saint-Esprit. C'est assez extraordinaire, un homme qui donne des ordres à Dieu, c'est comme le comble de la folie furieuse. Autre chose, c'est que souvent, ces gens-là, qui sont les leaders de ces groupes-là, souvent, ils vont adopter une attitude de supériorité et d'une grande arrogance spirituelle. Huitième chose, ils ont souvent des liens cachés. Par exemple, on affirme qu'on n'a pas de lien avec des organisations qui sont fortement contestées. Par exemple, quand le Toronto Airport Revival a commencé, tout le monde du Canada, des États-Unis, d'Europe, ça venait à Toronto pour aller voir le phénomène extraordinairement, supposément puissant. Et à un moment donné, ça s'est mis à être contesté, même par le milieu pentecôtiste. Et quand ça a été fortement contesté, il y a d'autres mouvements qui ont dit « Ah, nous, on n'a pas de lien avec eux autres ». Et quand tu fais un petit peu de recherche historique, tu te rends compte qu'il y avait des liens cachés, mais qu'on voulait comme ne pas s'associer avec eux officiellement. Autre chose qu'on fait souvent dans ces milieux-là, c'est la pression très forte qu'il faut absolument être présent dans ces manifestations supposées du Saint-Esprit et la nécessité absolue, selon eux, d'expérimenter ces choses par nous-mêmes. Ça, c'est vraiment le pire piège. Alors, si quand quelqu'un te demande, « Ben, regarde, si tu ne me crois pas, viens donc. Viens à la réunion, tu vas le voir, ce qui se passe. Il faut que tu expérimentes. » Ça, c'est la pire erreur, il faut remettre là. L'affirmation erronée qu'il est possible d'être béni sans repentance. Ça aussi, j'ai connu ça à Sherbrooke. Un gars que je savais qui vivait carrément dans le péché, là, connu, public, puis qu'il se mettait à parler en langue. Là. À un moment donné, la bénédiction du Saint-Esprit, quand tu vis dans le péché, personnellement, j'y crois pas du tout. Mais eux, ils disent que c'est possible. Onzième erreur, les constantes révélations extra-bibliques. Ça, moi, je n'ai pas connu beaucoup de révélations extra-bibliques, mais je connais des personnes qui nous ont raconté qu'à l'intérieur même de leur réunion, on fait des déclarations qui ne sont pas bibliques. L'Esprit m'a dit telle affaire, que ça va arriver telle année, telle affaire, tel phénomène. C'est très courant dans ce milieu-là. Et il y a aussi dans ce milieu-là, souvent, une fausse présentation quant à la nature du salut. Autre erreur, une grande ambiguïté doctrinale. Quatorzième erreur, la pratique de la dénonciation violente, maudire publiquement et anathémiser les opposants. Ça, je l'ai vu, je l'ai entendu de mes propres oreilles à la télévision. Quelqu'un maudire publiquement les gens qui s'opposaient à eux, les gens qui les dénonçaient, dire au nom de Dieu, je les maudis. Dire ça publiquement à la télévision, faut être spécial. Et quinzième erreur, la grande tendance à ce qu'on appelle le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est tout simplement un mot qui veut dire réunir toutes les religions du monde. Autrement dit, tu peux accéder à Dieu par n'importe quelle religion, et ces milieux-là ont une tendance à ça, de développer le syncrétisme. Et la 16e chose, des grands liens aussi, c'est démontrer, tous ceux qui ont étudié ces phénomènes-là en profondeur, ils se sont rendus compte qu'il y avait des liens très profonds avec tous les enseignements qui sont donnés par le Nouvel Âge. Troisième point, les réveils sont-ils encore possibles de nos jours? Ce sujet est très controversé de nos jours, mais il est cependant d'une importance capitale. Le meilleur traitement que nous avons vu sur cette question est un article du docteur, historien et pasteur réformé baptiste américain Tom Nettles, intitulé « A Better Way, Reformation and Revival ». Et ça a été publié dans le magazine chrétien « Reformation and Revival », volume 1, numéro 2, numéro du printemps 92. Et c'est un long article de 38 pages. Très intéressant. Je vous le conseille très fortement de le lire parce que M. Nettles fait vraiment un travail extraordinaire de présenter toutes les choses qui ont rapport à ça. Alors, on croit que le Dr Nettles a vraiment une position très équilibrée sur le sujet. Alors, on va résumer très brièvement, très sommairement, ci-dessous sa compréhension. Alors, essayez de résumer 38 pages en une page et demie. Vous essayerez, c'est un peu difficile. Mais on va regarder un petit peu comment il procède. Alors, il débute son article avec l'observation suivante. Il faut bien définir ce qu'est une réformation et aussi bien définir ce qu'est un réveil. Il développe ensuite l'idée que les deux sont inséparables et que les caractéristiques des deux phénomènes se doivent d'être distinguées et discernées, sinon les résultats peuvent être désastreux. Alors, on le cite. J'ai mis en anglais la première partie, on ne lira pas en anglais, on va lire la traduction que j'ai faite, c'est une traduction du mieux que je peux, parce que je ne suis pas un traducteur professionnel. Mais il dit « Ainsi en est-il du réveil et de la réformation. Lorsque les individus en poursuivent l'un, sans l'appréciation appropriée et l'attention pour l'autre, les résultats peuvent être très laids. Si nous croyons que les deux vont ensemble, nous devons, du moins selon mon opinion, les définir séparément et être capables de discerner les caractéristiques distinctives. Une compréhension claire des tendances de chacun des phénomènes séparés, l'un de l'autre, peuvent être une grande aide en voyant clairement quel genre de maladie envahit le corps. Avec soin, nous pouvons alors nous assurer que nous fournirons le remède demandé qui ne sera pas une surdose de ce qui est requis. La relation de la réformation et du réveil sur la croissance de l'Église doit aussi nous concerner. Autrement dit, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il faut absolument que tu saches bien définir l'un et l'autre, que tu saches les distinguer, connaître leurs caractéristiques, parce que ça définit, on dirait, comme une maladie qui envahit le corps de Christ. Et si tu n'appliques pas le bon remède, comme par exemple, si un peuple de Dieu se mettait à prier uniquement pour un réveil, alors qu'il n'est pas précédé par une tentative de réformer ta doctrine, ta vie, ta marche chrétienne, ça serait inutile, tu l'obtiendras jamais. Il faut que les deux vont ensemble. Si quelqu'un va avoir un réveil, il faut qu'il commence par réformer sa vie, sa doctrine. Les gens qui la veulent aussi, il faut qu'ils fassent la même chose. Ça a toujours fonctionné, ça marche ensemble. Quand ça ne marche pas ensemble, comme il l'a dit lui-même, ça finit par être dangereux. Alors, il commence par donner une définition de la réformation. Je vais vous la traduire en français. La réformation est le recouvrement de la vérité biblique qui mène à la purification de sa théologie. Autrement dit, avant de vouloir un réveil, il faut commencer par faire le ménage dans notre théologie. Elle implique une redécouverte de la Bible comme étant le juge et le guide de notre pensée et de notre action, qu'elle corrige les erreurs dans l'interprétation, qu'elle donne de la précision, de la cohérence et du courage dans notre confession doctrinale, et qu'elle donne de la forme et de l'énergie dans notre adoration corporative du Dieu trinitaire. Même si cela doit être une entreprise permanente, on connaît le fameux mot latin « semper reformata ». Alors, comme chrétien, quand on est des réformés, on se doit d'examiner nos pratiques, nos doctrines continuellement pour savoir si c'est pas rentré dans nos esprits ou dans les pratiques, quelque chose de pas. Alors, on se doit de continuellement se réformer. Alors, il dit d'être une entreprise permanente. Le déploiement de la réformation arrive à des époques de grandes détériorations théologiques, morales, spirituelles et ecclésiologiques dans l'Église. La preuve de ça, regardez quand la réformation, quand on appelle la réforme ou la réformation, quand est-ce qu'elle est arrivée? Elle est arrivée au moment où il y avait une détérioration théologique morale, spirituelle et ecclésiologique extrêmement grande. Alors, c'est ça qu'il dit. Maintenant, après ça, il donne une définition du réveil. Il dit « Le réveil est l'application de la vérité de la réformation à l'expérience humaine. » Autrement dit, c'est pas juste de redécouvrir la vérité, réaligner ta marche, il faut que ça devienne de l'expérience. Parce que ça pourrait arriver qu'une Église ait, du point de vue doctrinal, une parfaite, ce qu'on appelle en anglais, là, d'avoir une dead orthodoxy. Il peut arriver qu'une Église, au point de vue doctrinal, soit right on the line, droite dessus. Mais cependant, leur vie pratique ne démontre pas que leur vie correspond à ce qu'ils croient. Alors, lui, ce qu'il est en train de dire, c'est que le réveil, c'est l'application de la vérité de la réformation. T'as beau avoir la vérité, mais si tu ne l'appliques pas correctement, c'est pas correct. Alors, il dit, le réveil, elle arrive à une personne à la fois et peut causer aux individus d'être spirituellement isolés du monde qui les entoure. Elle peut aussi arriver à une échelle sociale plus grande et ainsi altérer radicalement la face spirituelle d'une église entière, d'une communauté ou d'une nation. Quand on étudie les six grands réveils, c'est souvent ça. Des individus, des communautés, des villes ou des régions et des nations complètes. Alors, normalement, le réveil implique trois choses. La présence de la réformation par la doctrine, soit de façon prêchée, soit de façon lue, soit de façon connue d'une autre manière. L'application expérimentale de cette doctrine accompagnée par une investigation aimante et soignée de cette même expérience et l'extension d'une telle expérience à un grand nombre de personnes. Autrement dit, quand le réveil arrive, si on apprend dans la réformation, on l'applique individuellement et on l'applique aussi dans l'ensemble de l'Église et il se produit normalement des conversions à grand nombre en dehors de l'Église. Alors, M. Nettle fait ensuite un tour d'horizon historique de ces deux phénomènes. Il nous rappelle que la réformation, c'est surtout la vérité, et que le réveil, c'est surtout l'amour. Il met en garde contre le danger d'appliquer le mauvais remède. Il décrit les dangers du mouvement contemporain Church Growth. Alors ça, j'ai connu ça aussi, parce que aux États-Unis, il y a comme un mouvement, ils servent des techniques du marketing pour chercher à implanter des églises partout. Ça n'a rien à voir avec la véritable salut de Dieu. On considère les succès juste en comptant les têtes. Et ça, c'est répandu aux États-Unis, très, très répandu. Elle dit, faites attention de ne pas confondre un véritable réveil avec les techniques de marketing du church growth, parce que vous allez faire une erreur fondamentale. Alors, qui cherche à développer l'Église en adoptant les valeurs et les standards des hommes, on pourrait dire compter les têtes seulement, sans s'assurer que ces personnes sont véritablement régénérées et qu'elles ont entendu le véritable évangile. Alors, nous recommandons fortement la lecture attentive de cet excellent article. Alors, s'il y en a qui nous écoutent et qui aimeraient avoir l'article, écrivez-moi puis je vais vous envoyer une copie. Alors, le Dr Nettles conclut en disant que l'Église doit rechercher à la fois la réformation et le réveil. Elle doit aussi résister et corriger ceux qui cherchent à éroder la véritable réformation ou à polluer l'authentique réveil. Alors, première application, l'étude des réveils comporte de grandes bénédictions. Nous comprenons mieux l'intervention de Dieu dans les affaires de son peuple et dans les affaires des hommes en général. Rappelons-nous des étapes de l'arrivée des réveils. La prise de conscience de la gravité de la situation, la repentance, la prière et l'intercession, la volonté de mieux connaître le Seigneur, la volonté de voir sa gloire. On a les cinq étapes. Le Seigneur répond, mais en permettant la vision de sa gloire de façon partielle et cachée dans le creux du rocher, donc en Christ. Deuxième application, sachons que Satan cherche toujours à contrefaire les phénomènes divins. L'acronyme FLESH, chair en anglais, définit les tactiques du malin. F pour fabrication, fantaisie, fraude. L pour lying, signs and wonders, miracles et mensonges mensongers. Et signes mensongers, E pour end time restaurationnim ou restauration des temps de la fin par la glossolalie, la guérison, l'unité à tout prix, les super apôtres, les super prophètes S pour slain in the spirit, ou tué en esprit, H pour hypnotisme, donc l'utilisation de la pression des pairs, des états altérés de la conscience, l'exploitation de l'expectative et le pouvoir de la suggestion. Troisièmement, faisons bien la différence entre la réformation et le réveil. Développons nos connaissances sur ces phénomènes. Que notre grand, glorieux et gracieux Seigneur nous donne de rechercher activement à la fois la réformation et le réveil par sa grâce et pour sa gloire.
Amen.